Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans la suite des previews 2022 de la saison NFL sur Touchdown Actu. Une journée, une preview. À nos côtés aujourd'hui, il arrive pour la première fois de l'année. C'est son premier match de pré-saison, on va dire. Lucas Vola, bonjour.
Bonjour messieurs, bonjour tout le monde. En effet, match de reprise, je suis chaud.
Comment ça a été ces vacances? Petite prépa, est-ce que tu t'es maintenu en forme podcastiquement ou alors là on repart vraiment sur de la prépa de fond?
Non, on repart sur de la prépa de fond. J'ai tendance à couper totalement et arriver à un point où parfois je me demande même quel est le nom du quarterback des Chiefs. Et puis ça repart tranquillement.
Ok, donc on va être sur du foncier avec Lucas dans cette émission. On va faire de la caisse au début. Lui, il a pas besoin de faire de la caisse, il est déjà chaud, il est debout, il tourne tel un lion en cage avec son polo rouge devant son micro. Ça me déstabilise que tu sois debout, j'ai l'impression que tu es un animateur FM, tu sais, qui est un peu chaud vers 16h. Grégory Richard, bonjour.
Salut à tous. Bonsoir, messieurs. Enfin, bonsoir. Bonjour, messieurs, parce que cette émission est intemporelle, on le rappelle.
C'est vrai. On est là pour animer donc votre retour du travail aujourd'hui entre 17 et 18h avec Grégory qui tourne en rond.
Détendez-vous, allongez-vous dans le canapé.
Je ne sais pas si on va beaucoup se détendre parce qu'on va parler des Houston Texans, messieurs. Deshaun Watson est parti, cette fois officiellement. L'an dernier, il était juste au placard. Davis Mills est désormais plus que jamais le quarterback titulaire. Lovie Smith est son nouveau coach puisque David Culley a été un peu jeté à la... Je ne sais pas si c'est la surprise générale parce que c'est les Texans, il n'y a jamais de surprise, mais en tout cas... Il avait quand même gratté 4 victoires. On va rentrer dans le vif du sujet. Je vous rappelle quand même quelques additions au niveau des signatures, même s'il n'y a rien encore de monumental. Kyle Allen, Dare Ogunbowale, Chad Bibi, Edgy Khan, Jerry Hughes, Mario Addison. Ça ne fait pas rêver. Du côté des départs, on l'a dit, Watson, mais aussi Marcus Cannon ou Demarcus Walker ou Justin Reed ou des gens comme ça. Bon, c'est pas encore ni du lourd dans le sens des allées, non plus dans le sens des départs, parce qu'il n'y a pas de bons joueurs dans cette équipe. Grégory, est-ce que c'est le pire effectif de la Ligue? Voilà, on peut se mouiller comme ça.
Ah bah écoute, ah bah d'habitude on me disait alors quels sont les motifs d'espoir?
Ouais, alors il y a des pastilles où on a du mal à commencer par ça.
Alors Greg, voilà une pelle, une corde, laquelle tu choisis?
Non, on n'est pas encore à l'émission sur les Falcons. Hein.
Ah bah écoute, alors très honnêtement, pour le coup, je ne vais pas anticiper sur l'émission sur Atlanta, mais oui, en tout cas, ça fait partie des effectifs les plus pauvres à mon sens. En tout cas, voilà, si je peux démarrer tout de suite, vu qu'en plus c'est moi du coup qui est lead sur le truc, mais forcément, on est plus tenté d'aller sur ce qui risque de les faire perdre avant peut-être d'enchaîner sur les motifs d'espoir éventuellement de cette franchise. Malheureusement, on a du mal à sentir, et c'est un peu ce que je déplorerais au lendemain de la draft, une vraie cohérence, on va dire, dans les différents choix qui ont été faits. Alors, malheureusement, on ne le découvre pas. C'est sûr que ça revient un peu comme chaque année, mais voilà, la politique mise en place par Jack Easterby et relayée désormais par Nick Casario en tant que general manager, on a du mal vraiment à comprendre là où Houston va. Il y a beaucoup de noms qui ont été évoqués pour remplacer David Culley. Finalement, on garde Lovie Smith qui était déjà au sein du coaching staff, qui a fait des bonnes choses en tant que head coach, mais qui est clairement plus sur la fin que vraiment à son prime, on va dire, en tant que technicien. Et puis tu l'as dit, c'est vrai que même s'il y a quelques motifs d'espoir, il y a quand même un groupe qui est à la fois très jeune et surtout qui apparaît quand même assez peu profond, alors que paradoxalement, on a eu une free agency très animée, notamment en 2021, et une draft où il y avait quand même de quoi garnir quelques positions. Donc voilà, et en plus, ils n'ont pas de chance puisque un de leurs joueurs draftés très haut en avril dernier, John Metchie, a été atteint d'une leucémie. Donc malheureusement, il va falloir composer aussi sans lui, qui aurait pu faire du bien éventuellement à cette attaque aérienne de Houston. Donc c'est sûr que ça fait peu de motifs globalement qui peuvent inciter cette équipe de Houston, une équipe de Houston qui était déjà assez calamiteuse au niveau du jeu au sol, que ce soit en attaque ou en défense. Et on ne voit pas de vrais changements significatifs, je trouve, notamment dans ces deux secteurs.
Lucas, beaucoup de tristesse dans ces mots de Grégory. Est-ce que tu peux trouver un peu d'espoir ?
J'ai surtout changé d'avis. On s'était dit que j'allais commencer tranquillement. Première prise de parole, je vais dire que je ne suis pas d'accord avec Greg. Comme ça, d'entrée, premier tac. Non, mais je ne suis pas d'accord. C'est un grand mot, bien entendu. Mais c'est juste que je trouvais que le seul petit motif d'espoir, c'était que... la draft était à peu près correcte. En tout cas, il y avait des idées. Que Lovie Smith, certes, c'est un coach sur la fin, mais quand on a justement une équipe très jeune, pourquoi ne pas mettre un coach d'expérience qui va pouvoir mettre une culture au début, dans un début de groupe, sur une année 0, une année 1, 2, et après laisser la main à quelqu'un qui a plus d'idées, qui peut amener l'équipe encore plus loin. Mais pourquoi pas prendre quelqu'un justement qui a l'habitude de gérer des jeunes. Alors peut-être il y aura peut-être ce choc des cultures, mais bon, Lovie Smith, il a fait des choses bien quand même à Chicago.
J'ai juste une réponse à ça, je te laisse poursuivre, mais je répondrai juste après là-dessus.
Mais du coup, voilà, je me dis pourquoi pas. Alors, Lovie Smith, puisqu'on anticipe, c'était mon joueur à suivre, c'était la personne un peu le facteur X pour moi, parce qu'en effet, ça reste quand même des questions. Je ne suis pas en train de dire que cette équipe-là, elle m'a ravi, que la draft m'a ravi, que la free agency m'a ravi. Je dis juste qu'il y a tellement de trous, il va y avoir encore des choix de draft sur les deux prochaines années, dans les deux premiers tours notamment. Je me dis que pourquoi pas commencer à construire quelque chose, et pourquoi pas avec Lovie Smith, et pourquoi pas avec les quelques joueurs qui ont été pris à la draft, le lineman offensif, un cornerback qui certes est souvent blessé, mais qui, si, bon, bah, comme beaucoup de joueurs, s'il reste en forme, peut être très bon. Donc, c'était un petit peu mes seuls motifs d'espoir. Donc, c'est là que je me dis que je n'étais pas forcément d'accord.
Réponse sur Lovie Smith.
Ouais, juste cheville. En fait, ce qui me perturbe globalement avec ça, c'est qu'en soi, l'expérience de Lovie Smith, elle ne me dérange pas, même si apporter une nouvelle dynamique avec un coach qui était déjà au sein du coaching staff, ça me paraît un peu compliqué, surtout quand, a priori, de ce qui apparaissait au vu des entretiens, ça a été un espèce de choix B, C, enfin bon, bref. Ça, c'est encore autre chose. Et ça, je pense que les joueurs, forcément, enfin, ils accordent pas forcément une importance aussi importante. Enfin, ils accordent pas une importance aussi notable que nous, pardon. Juste un point important et qui va rejoindre sans doute les motifs d'espoir pour Houston. Moi, ce qui me dérange, c'est par rapport au secteur offensif et à la possible progression qu'aurait pu avoir Davis Mills. La problématique, c'est avec Lovie Smith, c'est que, par exemple, le changement de coordinateur offensif et un changement de cahier de jeu, alors que pourtant, avec Tim Kelly, qui avait fait du bon boulot l'année dernière avec Davis Mills, bah, malheureusement, on repart sur une nouvelle page. Avec Pep Hamilton, alors j'ai rien de spécial contre Pep Hamilton, mais sur les quelques expériences qu'il a eues comme coordinateur offensif en NFL, j'ai pas été bluffé par ses cahiers de jeu et par sa capacité, en tout cas, à développer les différents quarterbacks. C'est plus ce qui m'inquiète dans le choix de Lovie Smith, et ça rentre pas forcément en considération suffisamment pour les mettre éventuellement en point positif, voire en factor X.
Est-ce qu'il y a un point positif quelque part très concret, très direct? Est-ce qu'il n'y a pas un espoir avec Davis Mills, par exemple, qui n'est pas déshonorant l'année dernière avec 16 touchdowns et 10 interceptions? La ligne offensive peut être correcte, il y a un Laremy Tunsil, il y a Brandon Cooks, il y a un comité de coureurs, pourquoi pas?
Alors justement, moi, c'est ce que j'allais dire. Mon principal motif d'espoir, ce qui peut m'amener à les ranger dans ce qui peut les faire gagner, c'est en effet la ligne offensive. Ça peut être un secteur, en l'occurrence, il y a une certaine profondeur. En tout cas, c'est un poste qui a été considéré, un des postes nettement considérés, je trouve, pendant cette intersaison. Bon, il faut que Laremy Tunsil soit concentré à 100%, mais je trouve que Kenyon Green, par exemple, qui était un des meilleurs gardes sur le pass pro de la dernière draft, ça peut faire que du bien au quarterback qui sera derrière lui. Titus Howard va être un peu plus concerné sur l'extérieur de la ligne. Et on devrait en tout cas avoir une ligne offensive beaucoup plus établie, en tout cas avoir une idée beaucoup plus définie de quel rôle va jouer quel joueur, ou quel joueur va jouer quel rôle. Dans ce sens-là, c'est mieux. Et c'est plus dans ce sens-là, en effet, où ça peut être intéressant et permettre à Houston de laisser du temps à Davis Mills. Les squads de receveurs, j'en parlais avec John Mechie et sa blessure. En soi, le groupe de receveurs, je le trouve intéressant. Brandon Cooks, tu le disais, c'est milliards la saison dernière. Nico Collins, qui a un bon espoir et que j'attends de voir. Mais encore une fois, c'est toujours pareil. S'il y a un blessé, il y a zéro profondeur derrière.
Ça, oui. Ça, c'est sûr. Du côté des points qui vont les faire perdre, je suppose qu'en effet, la défense se placent en pole position. Ils étaient 31e contre le sol l'an dernier. Ils étaient dernière attaque au sol, hein, d'ailleurs, au passage. Les tranchées, ce n'était pas tout à fait leur truc. La couverture aérienne, c'est plutôt suspect. Derek Stingley, c'est très bon, mais c'est fragile. Voilà, la défense, ça paraît quand même être une énorme problématique, Lucas.
Oui, clairement, il y a des trous partout dans cette défense. Il y a des linebackers qui ont beaucoup de mal à plaquer, ce qui est compliqué quand on veut être linebacker en NFL. Il y a en effet des defensive backs qui sont bah, il manque de talent, en fait. Clairement, dans cette équipe, il manque de talent. Il y a peu de joueurs à sortir où on se dit, ah oui, ça, c'est un joueur, c'est un titulaire en puissance, c'est quelqu'un qui peut élever le niveau d'un groupe de soit de linebacker, soit de safety, soit de cornerback. Alors oui, il y a cette draft de Stingley qui peut permettre ça, mais c'est vrai que quand on regarde l'effectif, la depth chart de la défense, c'est très compliqué. Et pareil pour l'attaque, parce que vous parlez de Davis Mills, moi, Mills, il m'a. Alors oui, il fait une bonne saison au milieu d'un effectif qui est très compliqué, mais je ne suis pas sûr que ce soit la solution d'avenir. Je ne suis pas sûr même que les Texans le voient comme une solution d'avenir, parce qu'en effet, pour moi, ils sont en train de tenter de construire pour beaucoup plus tard. On dit que la draft de quarterback est peut-être meilleure l'année prochaine, et donc pourquoi pas avoir un Mills cette année pour. Enfin, moi, Mills ne me convainc pas, et en effet, quand on voit en plus les armes qu'il a autour, vous parliez de Brandon Cooks, mais derrière, il y a des noms. Je regardais la depth chart des Texans pour les noms des receveurs. Quand je vois Chris Moore, Nico Collins, Chester Rogers, pour moi, c'est des noms d'emprunt. Je regardais, j'avais l'impression que c'était des noms d'emprunt, que ce n'étaient pas des vrais joueurs. Donc voilà, bon, je chambre, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a peu de talent, quoi, globalement.
Tu as oublié Jalen Camp, voilà, et oui. Connor Weddington, qui sont en effet
des
joueurs.
On joue à un jeu vidéo où il n'y a pas de licence.
Tu es à la quatrième saison de Madden avec la draft. Ouais,
c'est un peu sévère sur Nico Collins. Une petite parenthèse. Sur la défense, il y a un motif peut-être d'espoir pour Houston, c'est la progression notamment de Jonathan Greenard, qu'on a vu l'année dernière avec 8 sacks. En plus, l'arrivée d'un vétéran comme Jerry Hughes, peut-être que ça peut lui permettre de continuer de se développer là-dessus. Après, c'est vrai que malheureusement pour Houston, il va sans doute être un peu seul, en tout cas apparemment. Et on a vu que les profils sur la ligne intérieure notamment, il n'y a pas des rushers en puissance. Donc c'est vrai que, et Rashim Green, on a vu à Seattle que pareil, au niveau du pass rush, c'était pas forcément sa faculté première. Donc voilà, c'est sûr que ça va peut-être limiter l'impact, et que malheureusement, au-delà des difficultés qu'il y avait contre la course, ça va peut-être être une équipe contre la passe où ça va passer ou casser en fonction des snaps.
On passe au facteur à suivre. Comme ça, je mélange tout de suite facteur X et joueur à suivre. Qui est le facteur à suivre pour toi, Greg?
Lucas en parlait. Alors, je suis un peu partagé, mais je reste quand même sur le coaching staff globalement. Pour moi, j'attends d'être vraiment rassuré. Encore une fois, je ne nie pas les capacités de Lovie Smith à coacher une équipe. Malheureusement, on a deux extrêmes inverses. On a Chicago qui l'a emmené au Super Bowl et Tampa Bay avec qui il n'a jamais réussi vraiment à tirer le meilleur de son groupe. Donc c'est sûr qu'on est plus dans la situation de Tampa que dans celle de Chicago à l'heure actuelle. Donc c'est ça qui m'incite en effet, avec là encore le changement de coordinateur offensif, à rester un petit peu sur mes gardes par rapport à ça. Mais sait-on jamais, un petit peu comme sur le modèle de David Culley la saison dernière, peut-être qu'il peut y avoir une certaine émulation provoquée par le coach en question.
Ok, donc coach et coach, quoi. Coach aussi, c'était pour toi, Lucas, tu disais.
Ouais, c'était le joueur à suivre pour moi. En effet, parce qu'on peut avoir ce moment où il crée une culture avec l'expérience, comme je le disais tout à l'heure. Ce qui était bien du côté de Houston, quand même, c'est malgré l'absence de talent, l'an dernier, ils se sont quand même battus. Il y a eu beaucoup de défaites, mais on pensait pas que c'était une équipe qui, à chaque fois, allait perdre. On se disait, bah, pourquoi pas, en tout cas, ils se battaient. Voilà. Après, le talent fait que quand il en manque. Mais ça peut, voilà, ils peuvent construire sur ça. Et c'est notamment, ça vient du coaching staff, donc pourquoi pas.
Moi, je vais rebondir sur Jonathan Greenard dont tu parlais. C'était mon joueur à suivre, Greg. Et je vous invite, parce que c'est le joueur à suivre dans la preview de Jean-Michel Boujard qui est sur le site aussi. Donc, n'hésitez pas à aller acheter un œil si vous voulez de l'écrit. Un petit mot pour Ross Blacklock, qui était un espoir à une époque. La défense me terrifie tellement. Si jamais il voulait les aider, ça pourrait être pas mal. Sinon, ça risque en effet d'aller au désastre. Désastre ou pas d'ailleurs, on va le savoir avec le calendrier. Messieurs, ça commence contre les Colts. Ensuite, ce sera Broncos, Bears, Chargers, Jaguars, semaine de points en semaine 6, les Raiders, Titans, Eagles, Giants, Washington, Miami, Cleveland, Dallas, Chiefs, Titans, Jaguars et Colts. C'est pas un calendrier ultra dur. Alors évidemment, ils étaient très bas au classement, donc ils sont pas un calendrier ultra dur, mais ils croisent pas avec des divisions terrible puisqu'il croise donc avec la NFC Est, si je ne dis pas de bêtises, puisqu'il y a un enchaînement Eagles, Giants, Commanders et Cowboys, c'est ça, voilà. Combien ils en prennent selon vous?
Moi, j'ai du mal à aller plus haut que 3.
Ah, j'avais 4.
J'ai 4 aussi, ouais.
Sans être convaincu.
Vous serez plus optimiste que moi, pour une fois.
Bon, allez, disons que l'an dernier, ils ont fait 4. Donc.
Oui, bah, 4, ça peut. Hein. Encore une fois, on l'a dit, mais. Oui, je pense. En fait, le truc, c'est que, ouais, ils prennent des équipes prenables, notamment, je trouve, un peu au début. Avec Indianapolis qui aura son nouveau quarterback,
Chicago et Jacksonville,
Où on ignore encore à peu près comment la sauce va prendre.
Ouais, puis New York, Washington et rebelote Jacksonville dans la deuxième partie du.
Oui, et puis moi, c'est la même logique que pour Jacksonville dans une précédente émission, c'est qu'encore une fois, cette AFC Sud, je la trouve pas non plus hyper transcendante. J'ai du mal à voir une équipe se dégager forcément à 10 ou 11 victoires. Donc forcément, sur les confrontations, et Houston l'a montré, hein, on rappelle que l'année dernière, ils vont quand même gagner à Tennessee de mémoire. Donc voilà, ça reste une équipe qui est capable de poser des difficultés, notamment dans les confrontations intra-division. Ouais.
Et puis quand bien même, excuse-moi Alain, mais quand bien même il y a une équipe comme les Titans, par exemple, qui sont à 11 ou à 12 victoires, il reste deux autres équipes derrière, donc 4 matchs, et les Jaguars, on le sait, ça ne vont pas forcément être incroyables. Les Colts, il y a une question, donc même s'il y en a une équipe, ça reste une division qui n'est pas incroyable.
J'allais dire l'an dernier, leur victoire, c'est les Jaguars deux fois, les Titans et les Chargers. Ils avaient aussi battu les Packers en pré-saison pour montrer que la pré-saison sert à rien, évidemment. Mais ça, c'est le rappel.
Il y a moins de matchs, de toute façon, maintenant.
Obligatoire. Oui, il y en a plus de 3. Et pour ça, j'ai envie de dire merci.
Bon, il faut juste retirer cette semaine de off entre la dernière semaine de pré-saison et la première semaine de saison régulière. Ça, c'est autre chose.
On recharge un peu les batteries, on fait l'émission en public au Hard Rock Café. Ça sert à ça, la semaine entre les deux. C'est impeccable. Aussi, ouais. C'est la fin de cette preview, justement, des Texans. On vous remercie de nous écouter et de nous soutenir éventuellement sur Tipeee. Et je le disais, 500e en direct, enfin pas en direct, pardon, en public, je vais y arriver, au Hard Rock Café. Ce sera le samedi 3 septembre. Je crois que c'est une exclue, parce que si vous l'écoutez à cette date, on ne l'a pas encore tout à fait annoncé. En tout cas, il n'y a pas les détails, mais ce sera à partir de 16h avec l'émission en direct. Mais avant, il y aura des jeux avec des goodies à gagner, des trucs comme ça, et un dîner avec l'équipe dans la foulée. Les liens pour réserver, parce que vous pourrez réserver votre place pour le dîner, seront sur le site à partir du 16 août, je crois.
3 septembre, c'est quand même un jour éminemment important.
C'est ton anniversaire.
Faut-il le rappeler? Non, pas du tout.
Non.
Certains garderont le calendrier, c'est un jour éminemment important.
Ah, c'est la Saint-Grégory, du coup?
Ou Grégoire, ouais, voilà.
Grégoire, tout à fait. Okay, bon. Ah, sinon, on aurait fait ton anniversaire, c'était top.
Ouais, avec 7 mois d'avance.
Bon, pas raté. Je vais ramener un gâteau quand même.
Okay.
Ce sera déjà ça de fait, comme ça, si je l'oublie 7 mois après.
Tout je suis blindé,
tu vois. les réseaux sociaux, Twitter @TDActu, Facebook @TDActu, Instagram @TouchdownActu en entier, TikTok @TDActu pour les plus jeunes, touchdownactu.com pour le site. Merci beaucoup, messieurs. On se retrouve demain pour une nouvelle preview.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.